Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahi la yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka anta al-alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi shahli sadri, wa yassir li amri, wa hlul aqdatam lisan, yafqahu qawli. Toutes les louanges et les remerciements reviennent à Allah Azzawajal qui nous permet de reprendre nos programmes de Sira. Avant les grandes vacances, on avait vu les premières persécutions, les premières difficultés que les musulmans avaient connues lorsque notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de la part d'Allah Rabbul Izzah de prêcher ouvertement l'islam, de faire la da'awa ouvertement, d'inviter les gens vers l'adoration d'Allah l'unique et de délaisser l'adoration des idoles et des autres divinités. Notre prophète alayhi salatu wassalam n'a pas pris la décision par lui-même de prêcher ouvertement, car notre prophète alayhi salatu wassalam était bien sûr conscient des risques et des conséquences qu'il allait y avoir lorsqu'il allait dire ouvertement « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Il a attendu l'ordre divin qui est une révélation, un wahi, à travers les différents versets qu'on avait évoqués avant les vacances, où Allah Rabbul Izzah justement lui demande maintenant d'ordonner le bien et d'interdire le mal, de prêcher le tawhid ouvertement. Le prophète alayhi salatu wassalam recevait « Amr min Allah » et il suivait à la lettre le message qu'Allah lui révélait, mais également la façon qu'il fallait propager le message et prêcher. Lorsque notre Seigneur Rabbul Izzah lui avait demandé de prêcher en secret, on appelle la da'wa sirriya qu'on a eu l'occasion de voir, d'étudier, il l'a fait en secret. C'est uniquement lorsque notre Seigneur lui a demandé de prêcher ouvertement qu'il l'a fait. De même qu'on va voir à la fin de cet épisode, hein, de quelques anecdotes et histoires qu'on va voir concernant ces persécutions, le prophète alayhi salat wa salam n'a jamais provoqué les Quraysh. Il n'a jamais non plus cherché à unir les forces des premiers croyants pour constituer un groupe qui allait lutter, défendre leurs droits. Non. Le prophète alayhi salat wa salam n'a pas eu l'ordre de la part d'Allah de s'opposer au Quraysh. Donc il suivait, je finis cette explication, il suivait à la lettre le wahi, mais également la façon dont Allah lui a demandé de propager son message. Ce qui veut dire, là il y a une leçon importante, pourquoi cette longue explication, il y a une leçon extrêmement importante à retenir. C'est qu'à partir du moment où il va prêcher ouvertement la da'wa, il y a les conséquences qu'on a déjà vues la dernière fois avec les persécutions de Moussa bin Umar radiallahu anhu, en plus des difficultés que lui-même, alayhi salat wa salam, a connues de la part de Abu Lahab, de la part de Abu Jahal et des autres ennemis de l'islam. Donc, à partir du moment où il prêche ouvertement, on voit ce qui se passe, on voit les conséquences, on voit les difficultés dans lesquelles il se met lui-même et les difficultés dans lesquelles les sahaba, les difficultés que ces sahaba auront à faire face. Certains vont même payer de leur vie, certains vont perdre des membres de leur famille et certains vont être expulsés de leur demeure, de leur maison, comme Moussa bin Umar qu'on a vu la dernière fois. Mais à aucun moment, on doit se dire que, na'ud billah, il n'aurait pas dû prêcher ouvertement, il aurait dû, la wallah. C'est ce qu'Allah a décidé. Et la leçon, je reviens, la leçon à retenir, c'est que notre Rabb Azzawajal, bien sûr, c'est lui qui prédestine toutes choses. Allah avait prédestiné chacune des difficultés que les sahaba allaient rencontrer et que lui-même, alayhi salatu wassalam, allait rencontrer. Donc, ce que je retiens comme leçon, c'est lorsqu'Allah prend une décision et que de cette décision, il y a des difficultés, des épreuves qui en découlent, il faut être persuadé que ces épreuves-là ont été prédestinées par Allah Rabbul Izzah pour un but précis. Et ne jamais se dire que j'aurais pas dû, il aurait fallu, ainsi de suite. Et ça, c'est une règle générale. Je sors un peu de la sira pour qu'on puisse appliquer ces leçons de foi de notre vie de tous les jours. Là, je parle vraiment de ce qui nous arrive au quotidien. Quand vous prenez une décision, bien sûr, j'ai une décision importante à prendre concernant l'orientation professionnelle, la famille, les études, ou ça peut être même l'achat d'un bien, ainsi de suite. Bref, comment on prend une décision? Déjà, on réfléchit de façon posée, ne jamais agir dans l'émotion. D'accord? on demande doa, on demande à Allah de nous aider, de nous guider vers la meilleure des décisions. On accompagne ces doigts d'une invocation spéciale qu'on appelle l'istikhara, le doigt de l'istikhara. La formule des doigts d'istikhara, vous le trouvez dans la citadelle du musulman, du croyant, Hisnul Muslim. Et ensuite, je veux dire en parallèle, voilà ce qu'il faut faire, en parallèle, faire le shura, on appelle le mashwara, se concerter avec les gens qui ont la connaissance dans ce domaine. Si c'est domaine professionnel, domaine immobilier ou autre chose, des gens qui s'y connaissent, donc on fait le shura, donc on ne jamais prendre une décision seule, toujours se concerter, ça fait partie de l'enseignement de l'islam, ça nous permet de développer l'humilité et de comprendre que nous sommes une umma, nous avons besoin de nous entraider. Quand on a besoin de l'aide de quelqu'un, on sollicite, et des fois quelqu'un a besoin de notre aide, on doit également répondre présent. Donc, on fait le shura, dua, istikhara, et ensuite on prend la décision. Une fois que la décision est prise, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand vous avez pris une décision pour un projet, placez votre confiance en Allah. Et ce verset nous apprend également que l'islam donne beaucoup d'importance à la force psychologique, la force mentale, c'est essentiel. Dans notre dîn, nous avons besoin d'être forts, spirituellement, hein, bien sûr, physiquement au mieux, on fait ce qu'on peut, mais également fort mentalement, et non pas être une personne qui est indécise, une personne qui est toujours dans le doute, dans l'anxiété, non. Quand on a pris une décision, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu sais que ta décision a été prise à l'issue, c'est pas une décision qui a été prise à la va-vite ou voilà sans réflexion. Non, il y a eu réflexion, il y a eu shura, il y a eu istikhara. Et puis comment tirer une leçon du istikhara, ça c'est un autre chapitre qu'on verra peut-être dans un autre dars. Voilà, quand les conditions sont réunies, que tu as pris ta décision entre le chemin A, B et C, tu as choisi le chemin A. Parce que c'est l'issue de ton stikhara et de tes mashwara. Décision est prise. Fatawakkal ala Allah. Place ta confiance en Allah. Il n'y a plus à revenir sur une décision qui a été prise. Il ne faut surtout pas douter. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que... Non. Du moment que la décision est prise, c'est ce qu'Allah a mis de ton cœur. On a besoin de cette force mental, psychologique, ce charisme, hein, d'accord, pour prendre les bonnes décisions et avancer, et ne pas être celui qui est toujours en train d'hésiter, de revenir sur ses pas et tout. Ça, c'est quelque chose. Et la décision qu'on prend, j'allais dire qu'on assume les conséquences. Bon, c'est pas, l'expression n'est pas adaptée. Ce qui en découle, on sait que ça vient d'Allah. Parce que le istikhara, c'est justement, l'objectif, c'est de te faire prendre la bonne décision. Donc, si à l'issue de ma décision, il y a des difficultés. Je sais que ce sont des épreuves qui viennent d'Allah, c'est ce qu'Allah a prédestiné pour moi, et surtout, ne jamais dire si. Si j'avais pas fait ça, si j'avais fait ça, ainsi de suite. Le Prophète me dit que فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Là-haut, qui veut dire si, ouvre la porte au diable, la porte au shaitan, c'est-à-dire que à partir du moment où le croyant doute, shaitan va profiter de cette instabilité. Shaitan, il aime qu'on soit faible et instable pour nous insuffler soit le mal, soit plus de doute. En fait, il veut tout simplement que nous soyons mal à l'aise et que nous n'avancions pas correctement. Donc, si on a des doutes, Shaitan va mettre plein d'idées erronées dans notre cœur. Et donc là, nous allons douter encore plus, toutes ces craintes vont se cristalliser de façon incohérente, et là, nous allons nous affaiblir. Donc, décision prise, ne jamais revenir en arrière et dire si, parce que ça ouvre la porte de Shaitan. Je ferme cette parenthèse, on s'est un peu étalé, mais ce qu'on voulait retenir de cette décision, le Prophète Azam qui vient d'Allah, c'est que les difficultés qui vont découler de cette nouvelle prêche, de cette prêche ouverte, ce sont les difficultés qui ont été prédestinées et voulues, oui, et voulues par Allah Rabbul Izza pour une hikma, pour une sagesse qui appartient que à notre Seigneur Rabbul Izza. Par exemple, le cas de Moussa bin Umair qu'on avait vu au mois de décembre, certes, il a perdu sa famille, il a perdu sa maison, il a perdu ses biens, il a perdu la protection même de sa tribu, il a perdu sa santé. Sa santé, il avait des problèmes, il a connu des problèmes de santé terribles parce qu'il était à la rue, hein, littéralement, il n'avait plus rien à manger ou très peu, ainsi de suite. Mais ces épreuves, il les a acceptées, il a placé sa confiance en Allah, il avait la conviction que ça vient d'Allah et qu'il y a un khair dedans. Et qu'est-ce qu'Allah lui a accordé? Ce rôle exceptionnel de devenir le... Il y a un ouvrage que j'ai l'occasion de lire, hein, que Moussa ibn Ahmed, qui était le saphir à l'islam, le représentant. On peut traduire dans un vocabulaire plus moderne, il était l'ambassadeur de l'islam à Madina Munawwara. Par la grâce d'Allah, ensuite par la prêche de Moussa ibn Umair, quantité de familles à Madina se sont converties à l'islam, et il y a de très beaux récits où Moussa ibn Umair lisait le Coran exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran aux nouveaux croyants, et que les Quraysh venaient écouter. Ils étaient intrigués et ils les écoutaient en cachette. Pareil, il y a des récits que Moussa ibn Umair le faisait à Madina, et les gens de Madina qui ne s'étaient pas encore convertis à l'islam venaient écouter. Ils étaient perplexes, certains n'appréciaient pas et d'autres se sont convertis à l'islam. Donc Allah a ouvert le taqdir de Moussa ibn Umair en lui accordant un rôle exceptionnel qui était de seconder et de représenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville sainte de Madina pour préparer cette ville justement pour accueillir Nabiullah et ses compagnons pour que Madina devienne la capitale de l'islam. Donc il a perdu des bienfaits, on va dire dunyawi, mais Allah lui a accordé une ouverture et c'est une leçon pour nous. Et si on voit comment il a quitté ce dunya dans le chemin d'Allah, on comprend que Allah Rabbul Izzah a accordé à Moussa ibn Umair quelque chose d'exceptionnel. Bien, nous voyons donc aujourd'hui, on va pas être très long, par rapport à l'heure de la Salat Isha qui devient de plus en plus tôt, l'histoire de Bilal ibn Rabah radiallahu anhu. Alors, c'est prétentieux de vouloir raconter l'histoire de Bilal. Et en même temps, ce n'est pas vraiment nécessaire de citer tous les détails, parce que tout croyant connaît. N'importe qui, mashallah, a eu l'occasion soit d'étudier, soit d'entendre les récits de Bilal radiallahu anhu. Quand on veut en général parler d'un sahaba qui est resté ferme de le tawhid et qui a souffert physiquement pour la ilaha illallah, on prend l'exemple de Bilal radiallahu anhu. Et pourquoi est-ce que l'exemple de Bilal, c'est, il y a tellement, tellement de leçons au-delà de l'aspect spirituel et de tawhid, également des leçons d'humanisme, de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est énorme. Malheureusement, je ne sais pas, ou alors je ne suis pas au courant, mais j'ai pas vu en français d'ouvrage traduit ou rédigé sur le parcours de Bilal et les grandes leçons que nous devons retenir par rapport aux valeurs que la société occidentale prône maintenant. Nous les retrouvons tous dans l'histoire de Bilal ibn Rabah. Il faut se rappeler le contexte, resituer le contexte. On est à Makkah al-Mukarrama, on est donc au début de l'islam, et ceux qui gouvernent à Makkah, ce sont les Quraysh, les Zouama de Quraysh, et on est dans le Jahiliya, on est dans la période de l'ignorance, et parmi les malheureusement, les aspects de cette période, ce qui caractérisait la période de l'ignorance, c'est qu'ils donnaient, les Arabes, de l'importance, une importance excessive, démesurée et totalement incohérente au nesab, à la lignée. L'arbre généalogique, il fallait être noble pour exister. Et bien sûr, si on n'était pas noble, on n'avait pas de place de le shura, ou notre avis ne comptait pas, ce qui veut dire que même parmi des qui, des gens de Mecca, s'ils n'étaient pas nobles, alors qu'ils étaient arabes, des fils de Ismaïl, alayhi salam, leur avis ne comptait pas. Un peu comme on avait en France, enfin, des siècles après, qu'on parlait de la noblesse. On parle de la noblesse, et de l'autre côté, on avait les bourgeois, même si ils avaient de l'argent, ils étaient riches, mais du moment qu'ils n'avaient pas le sang noble, leur avis ne comptait pas. Je ferme cette parenthèse, mais au moins on a un parallèle avec peut-être une facette de l'histoire qu'on a appris donc à l'école. Donc les Arabes étaient focalisés sur la noblesse, et au-delà de ça, ils étaient profondément racistes. Les personnes qui n'étaient pas arabes n'avaient pas de place, n'existaient pas, n'avaient pas même de rôle ou de présence humaine pour laquelle ils donnaient considération, encore moins s'ils étaient des esclaves. Et là, on a Bilal qui est esclave, et en plus, Bilal, ce n'est pas un esclave arabe, mais un esclave habashi, c'est-à-dire un esclave qui vient d'Abyssinie, de l'Afrique. L'Abyssinie qui est l'équivalent de... L'Abyssinie qui était l'ancien nom, pardon, de l'Éthiopie. Donc, Bilal ibn Rabah, homme de peau noire. Alors, quand j'explique ça aux élèves, la madrasa, et il y en a qui sont un peu choqués quand on dit c'était un noir, un homme noir. Il dit que oui, mais est-ce que c'est pas raciste de dire ça? Ben, aucunement. Aucunement. Les hadiths, les récits stipulent que c'était un homme de peau noire qu'Allah a élevé pour qu'on comprenne bien que chez les Arabes, ceux qui n'étaient pas de cette lignée, et en plus les personnes des personnes noires, d'accord, on a tellement plus l'habitude de le dire que on a du mal à le faire. Ils n'existaient pas, ils n'avaient aucun rôle. Et c'est une des raisons pour lesquelles certains chefs de tribu n'ont jamais voulu venir près du prophète parce qu'il y avait auprès de lui un homme de peau noire, Bilal ibn Rabah, et il n'admettait pas, il ne voulait pas accepter que nous, nobles de Makkah, nous soyons dans un majlis, dans un cercle, dans une assemblée, côte à côte avec un homme noir. C'était, na'oudou billah, indigne pour eux. Donc, on se resitue, on a bien situé le contexte, dans ce contexte extrêmement difficile sur le plan humain, Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, qui était donc esclave de Umayya ibn Khalaf, qui était esclave donc persécuté même à la base, il a entendu parler du Risalat al-Tawhid, de la prêche de Muhammad Mustafa, alayhi salat wa salam, et de tout ce qui découle de cette prêche en termes d'égalité. Inna akramakum indallahi, entre autres, que les gens les plus aimés, les plus proches d'Allah, ce sont les plus pieux. Donc la seule chose qui distingue une personne, un croyant auprès d'Allah, c'est sa piété, le lien qu'il a avec son Seigneur de l'adoration, et non pas la couleur de sa peau, ni le nom de sa famille, ni ses origines. Et ça, c'est un message qui avait touché Bilal, radiallahu anhu, parce que il vivait très mal, comme tous les esclaves, ces injustices de la part des Quraysh et des Arabes de façon générale. Donc, il s'est intéressé à l'islam, il a accepté le tawhid, il a lu la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et comme on avait vu, pour ceux qui se souviennent, au mois de décembre, quand les Quraysh apprenaient que quelqu'un se convertissait à l'islam, si c'était quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'appartenait pas, pardon, à une grande famille, les persécutions, alors là, il se lâchait complètement. Et Bilal, qui était esclave, donc il n'y avait personne pour le défendre. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de policier, enfin, vous comprenez, parce que la loi, c'est les Quraysh qui le faisaient. Et donc, Bilal fut une des personnes qui a connu le plus de persécutions. Les récits, les détails de ces persécutions, vous le savez, vous l'avez appris. Je lis, on est dans Ar-Rahiq al-Makhtoum. Pour ceux qui ont la même édition au Coban, on est à la page 143. Je lis donc, on attachait une corde à son cou et des enfants le tiraient dans les rues et même à travers les collines de la Mecque. Je lis ça, ça me fait mal, parce que quand on parle des collines de la Mecque, pour ceux qui ont connu l'époque où il y avait encore des montagnes, on parle de Jabal Umar et ainsi de suite, ces montagnes de Makkah, comment étaient les montagnes de Makkah? C'était des montagnes, c'était de la pierre, c'était rocailleux, c'était. Imaginez une corde à son cou, déjà une corde à son cou, subhanallah, en termes d'humiliation et de douleur et de souffrance. Et le sol chaud de Makkah et des enfants. Donc ça, c'était le comble de, on va dire, de l'humiliation. Il voulait vraiment le rabaisser, que c'était même pas les chefs de tribu qui s'occupaient de lui, mais on le livrait. Le terme est cru, mais on le livrait à des enfants, à des petits sauvages, excusez-moi, qui l'attachaient et qui le tiraient comme, j'ai honte de le dire, mais comme un animal, na'ouz billah. Et donc ça, Bilal a supporté. À quel moment ils auraient arrêté ces persécutions? Vous savez, Bilal, il ne réclamait pas la liberté, hein? Il n'a jamais demandé à Omeyyah ibn Khalaf de lui accorder la liberté pour qu'il puisse être un citoyen, on va dire, quelqu'un qui vit dans. Non, aucunement. Aucunement. Ces problèmes ont commencé quand il a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Et ces problèmes auraient pu s'arrêter immédiatement au moment où il dit à Omeyyah ibn Khalaf que Khalas. J'ai quitté le dîn de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis revenu vers vos idoles ou alors j'ai pas de religion. Mais non. Tout ce qu'il va endurer, c'est parce qu'il est resté ferme dans la ilaha illallah, Mohammed rasoul. Ça, il faut vraiment l'intégrer. On ne doit pas écouter ou lire les histoires de Bilal comme un simple récit, mais retenir la leçon de foi, l'attachement au tawhid, que c'était des gens qui étaient prêts à mourir pour la ilaha illallah. Parce qu'ils avaient connu les années et des années de jahiliya, d'ignorance, de shirk et d'égarement ils avaient vu cette décadence en termes de croyance, bien sûr, mais également en termes de akhlaq, de comportement, décadence du jahiliya, de la période de l'ignorance. Et là, ils ont vu la lumière. Et le cœur de l'être humain aime le haqq et la lumière. Ces cœurs sincères ont reconnu la vérité et ont reconnu la lumière qu'il y a dans l'unicité d'Allah. Et ils se sont accrochés à cette foi et à ce iman et ils étaient prêts à mourir pour la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Attention, je veux bien préciser le sens de ma phrase. Quand je dis ils étaient prêts à mourir pour leur croyance, je n'ai pas utilisé le mot kamikaze. Attention, on ne fait aucun lien, aucun parallèle. Un kamikaze, c'est un fou, premièrement. Parce que le musulman ne se donne pas la mort. Il n'y a rien de plus interdit que ça. Le haram s'appelle al-intihar, d'accord? Et deuxièmement, le croyant ne provoque pas la mort des gens. Enfin, dans les tris de kamikaze, il y a tellement de péchés, de haram, hein, qui gravitent autour de ça qu'il n'y a même pas besoin d'aborder le sujet. Les gens sains d'esprit qui connaissent la religion, ils savent que c'est du grand n'importe quoi. Quand je dis ils étaient prêts à donner leur vie pour Allah, c'est-à-dire que mourir pour leur conviction. Si on devait les tuer ou les persécuter pour qu'ils quittent cette religion, ils ne le feraient jamais. Ils étaient prêts à se laisser mourir pour rester dans le haqq. Et pourquoi donc? Pour retrouver Allah le jour des comptes avec le tawhid. Hada. Je continue la lecture. Oui, on parle également de privation prolongée de nourriture et d'eau. On l'affamait, on le privait d'eau. Et quand on parle de Makkah, la chaleur, l'été, même en hiver, il fait chaud à Makkah. Même en hiver, quand il fait froid à Madina, on sait qu'à Makkah, l'heure de Salat al-Dhuhr, personne ne va à la Salat al-Dhuhr avec une veste, avec un pull. Il fait toujours chaud à Makkah, l'heure du Zawal, le midi, l'après-midi. Et donc, privation de nourriture, d'eau et les persécutions, corde au cou, on le tirait dans les rues pour bien le montrer, pour que ce soit un exemple. Pour que ce soit un exemple pour toute la ville de Makkah et à travers les collines. Et là, on peut comprendre comment est-ce qu'il était blessé sur son corps parce qu'on le tirait sur le sol rocailleux. On continue. Sur le sol brûlant de la vallée de Makkah à l'heure du Zawal, en position allongée, et de lourdes pierres étaient posées sur lui. Non seulement il le faisait allonger sur le sable chaud de Makkah à l'heure du Zawal, du zénith, d'accord, et en plus il posait des pierres lourdes, des rochers sur son torse, et je lis, tout cela se révéla vain, c'est-à-dire toutes ces persécutions n'ont pas abouti, il persista de sa croyance en l'unicité d'Allah, ne cessant de répéter unique, unique, ahad, ahad. Et pour ceux qui ont eu l'occasion de voir un vieux film qui s'appelle Le Messager, hein, donc ça date de au moins 30 ans, 40 ans, c'est très beau, c'est vraiment très beau, et ça touche, hein, et quand on voit les souffrances de Bilal. Après, il y a le massacre de représentation via une vidéo, via un film et tout, c'est une question qui mérite d'être posée. Donc c'est une réalité, mais si vous le regardez, je pense que ça apporte quand même quelque chose de voir, d'essayer de voir un peu les hadiths qui font revivre à travers ces échanges et de voir le sacrifice de Bilal ibn Rabah qui restait sur le tawhid en disant ahad ahad. Donc voilà une petite présentation très synthétique de ce que Bilal radiallahu anhu endurait, dans quel contexte et pourquoi il restait ferme. Et que s'il avait refusé le din, il l'aurait été épargné immédiatement. Il aurait peut-être même félicité par ses maîtres Umayya ibn Khalaf, parce que les Mécois n'arrêtaient pas de chercher le croyant, le nouveau musulman qui allait quitter l'islam. Ils voulaient un exemple. Ils n'en trouvaient pas. Une personne qui dit que j'arrête, je ne pratique plus l'islam et tout, je reconnais que c'est une religion, na'oudou billah, de fausseté, ils n'en trouvaient pas. Et donc, Bilal ibn Rabah, alors le prophète alayhi salat wa salam, est très attristé. Il est très attristé par le sort de Bilal, par ses persécutions. Et en aucun cas, le prophète alayhi salat wa salam ne se dit que c'est à cause de lui. Non. Parce qu'il sait, il est intimement persuadé qu'il est en train de prêcher le wahy min Allah, la révélation d'Allah, et qui va tirer toutes ces personnes de l'obscurité pour les ramener vers le haqq. Le prophète était imprégné de ce message, il était persuadé que c'est le haq, que c'est le haq, et que tout ce qui allait de tout ce qui allait se passer, tout ce qui allait graviter comme difficulté autour de ce message, c'est exactement ce que les autres prophètes, les autres anbiya alayhi salat wa salam, ont connu lorsqu'ils ont prêché l'unicité d'Allah Rabbul Izzah. C'est pour ça que dans le Coran, je ne vais pas ouvrir une autre thématique, mais dans le Coran, il y a l'exemple, il y a l'histoire de tous les anbiya alayhi salat wa salam. Et en tafsir, on appelle ça At-Tasliya. Notre Seigneur Rabbul Izzah révèle l'histoire des autres prophètes pour que ce soit un encouragement pour le prophète alayhi salat wa salam, pour qu'il réalise que ses frères prophètes ont connu les mêmes difficultés et les premiers croyants ont connu ces mêmes difficultés. C'est la sunnah d'Allah. Il y a que ce qui est en train de se passer, na'oud billah, ce n'est pas parce qu'il a mal prêché, non. Ce n'est pas parce que son peuple est plus mauvais que les autres peuples, non. C'est de cette façon qu'Allah a organisé les choses et que pour rester ferme, pour trouver cette vérité, il y a des difficultés, des sacrifices. Ce matin, j'écoutais un de mes élèves récitait le Hivr et il récitait un de mes passages préférés, la Surat al-Qasas, de lequel notre Seigneur Azza wa Jal révèle « Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yadhbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin » Verset que je vous laisserai lire la traduction et découvrir le sens, de lequel il stipulait comment est-ce que Fir'aun était, on connaît, un tyran, quelqu'un de sanguinaire, et qui exécutait, j'allais dire, il se donnait le droit de donner la mort à qui il voulait parmi les Israélites, parmi les Banu Israël. Donc cette cruauté, on l'a dans l'histoire de Moussa alayhi salam, on l'a également avec les Romains et d'autres personnes qui étaient contre la prêche de Isa alayhi salam, et dans l'histoire de tous les prophètes de façon générale. Allah Rabbul Izzah le révèle pour que le prophète sallam voit et prend conscience de l'organisation d'Allah et de l'historique des révélations et des prophéties. Et puis il y a certains versets, comme dans la sourate, il me semble, c'est la sourate Al-Ankabut, où Allah rappelle que pour rester dans le haq, pour goûter à la vérité et pour obtenir ce jannah, il y a des efforts, des sacrifices. Alif lam mim hasiba an-nas an yutrakou an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Je vous laisse là aussi lire la traduction parce que je l'ai pas sous les yeux, et les commentaires de le tafsir de Sa'di ibn Kathir et autres tafsir. On voit que pour revenir vers le haq, ça peut être quelqu'un qui n'avait pas le tawhid et qui se reconvertit à l'islam, ou même quelqu'un qui était éloigné de la religion et qui décide de revenir. Ça peut être quelqu'un qui ne priait pas, et il obtient la guidée de la part d'Allah dans le mois de Ramadan ou même maintenant, et que la personne commence à prier. Ça peut être une dame, une sœur qui, en termes de tenue vestimentaire et de façon de se couvrir, elle n'était peut-être pas conforme, et elle décide de faire des efforts dans cette voie. Assurément, quand on revient vers le haq, il faut s'attendre à des difficultés. Ces difficultés, il faut que j'arrête d'utiliser le terme difficulté. Des épreuves. Allah envoie des épreuves pour voir notre sincérité, notre fermeté. Si on passe ce cap, on a l'ouverture et on avance, et on est, inshallah, on reste sous la protection d'Allah, Rabbul Izzah. Na'am, hada. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas voir ces difficultés, il faut pas voir les persécutions de Bilal comme une fatalité ou comme quelque chose qui n'a pas fonctionné. Non, c'est de cette façon qu'Allah a prédestiné. Et le dernier point que je vais citer, et puis ça va être l'heure de Salat Isha, j'ai pas l'heure sous les yeux. Ça va être l'heure. Le dernier point, c'est ce que le prophète a demandé à Abou Bakr de faire. Donc on avait dit que le prophète était attristé de ce que Bilal vivait et d'autres sahaba, dont l'histoire on verra plus tard, inshallah. Et le prophète a demandé à Abou Bakr, qui était son bras droit, le compagnon qu'il aimait le plus et qui sera bientôt Thani Athnain Idhuma fil Ghar, celui qui va être choisi par Allah pour accompagner le prophète lors de l'émigration et dont le récit sera cité dans le Coran et qui sera lu jusqu'au Qiyama. Le prophète demande à Abou Bakr, qui était également une personne qui avait les moyens. C'est quelqu'un de riche. Abou Bakr As-Siddiq radiallahu anhu était un commerçant riche, respecté, une des personnes les plus nobles de Mecca. Si je devais ouvrir des parenthèses, je risque de rater la salat de Isha. Mais il faut retenir que on a parfois une vision du croyant. Pour être un bon croyant, ben, il faut se détacher du monde totalement. C'est une bonne chose, hein, que l'amour de ce devenir ne pénètre pas les cœurs. C'est une bonne chose. Mais attention, le croyant, c'est pas celui qui reste dans la masjid de Fajr jusqu'à Isha, qui ne travaille pas, qui ne fait rien, qui laisse sa famille dans le besoin, et qui se dit que tawakkalna ala Allah, Allah va nous envoyer notre risque. Non. C'est bien, tous ces principes, mais il faut savoir que même les prophètes travaillaient. On sait que le prophète salam, à ses débuts, il était berger, et ainsi que Moussa alayhi salam, il a travaillé la terre. Il était donc, il a aidé Shu'aib alayhi salam pendant un laps de temps, d'accord. Donc ce sont des leçons à retenir, et de façon globale, Allah Rabbul Izza aime le musulman qui est fort. Le musulman qui est fort, c'est le musulman qui va apporter pour sa communauté et pour la Ummah. D'accord. Donc Abu Bakr as-Siddiq était un riche commerçant. C'est pas parce que il est devenu croyant qu'il s'est dit que j'arrête mon commerce, je vends tous mes biens, je donne tout mon argent dans le fi sabilillah en aumône et je me retire dans une mosquée, je fais le dhikr Allah. Non. Il a continué son activité et ses biens qu'il recevait, ses bienfaits qu'il recevait de la part d'Allah, il les utilisait pour le dîn. Et c'était extrêmement profitable parce que le prophète va demander à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu d'acheter ce qu'on appelle affranchir Bilal radiyallahu anhu. Il va voir donc Umayya ibn Khalaf, il lui propose un prix, Umayya augmente le prix et Abu Bakr accepte. Et Umayya ibn Khalaf ainsi que les autres chefs de tribu s'étaient moqués d'Abu Bakr as-Siddiq en se disant qu'il a dépensé une fortune pour un noir qui n'a plus de force, qui est en sang, qui va bientôt mourir. Il ne comprenait pas pourquoi Abu Bakr a donné autant d'argent pour Bilal. Et Abu Bakr, lorsqu'il a franchi Bilal, son but ce n'est pas de prendre Bilal pour travailler avec lui, aucunement, c'est vraiment de lui accorder sa liberté, liberté physique, liberté morale, et avant tout liberté spirituelle, et dans l'histoire des religions monothéistes. Dans l'histoire des religions monothéistes, c'est la première personne qui va affranchir un esclave. Et donc, si on parle un peu de notre histoire, on revient un peu sur la Réunion. Vous savez, le 20 décembre, l'attachement qu'on donne à l'abolition de l'esclavage, parce que notre île a connu hein, l'esclavage, et c'est un modèle. Abu Bakr as-Siddiq reste un modèle que nous ne mettons pas suffisamment en avant. Et l'histoire de Bilal ibn Rabah doit être citée quand on parle des récits d'esclavage, parce qu'il a été affranchi par Abu Bakr par l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. On va s'arrêter à la prochaine soirée, Inch'Allah. Qu'Allah Rabbul Izzah nous permette de comprendre ces quelques paroles, de retenir les leçons, et que le sacrifice de Bilal pénètre nos cœurs, et que nous, dans notre quotidien, quand on a des tout petits, des micro-sacrifices à faire pour notre religion, on prend comme exemple Bilal, qui lui était prêt à donner sa vie pour être dans l'obéissance d'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan.